Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Le 18 octobre, l'Église catholique fête Saint Luc, évangéliste. Parmi les quatre évangélistes, Saint Luc est le seul à n'avoir pas connu Jésus. Matthieu et Jean comptaient parmi les 12 apôtres et Marc était dans l'accompagnement de Pierre. Pour évoquer Saint Luc, j'ai à mes côtés Lucie Lehoux. Bonjour Lucie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Vous avez choisi un tableau de Valentin de Boulogne, peintre français, daté de 1625 et qui se trouve au château de Versailles. Chers auditeurs, si vous voulez retrouver ce tableau sur Internet, tapez Valentin de Boulogne, comme la ville de Boulogne, Saint-Luc. Et vous trouverez facilement le tableau que nous allons commenter aujourd'hui avec Lucie Lehoux. Quelques mots sur, pendant que vous cherchez, quelques mots sur Valentin de Boulogne. Ce peintre français, donc né à Coulommiers en 1591, est mort à Rome en 1632. D'une famille de peintres, il a été formé probablement dans l'atelier de son père. Il suit ensuite l'enseignement du peintre Simon Vouet, puis il part en Italie vers 1609 pour ne plus revenir en France. Alors en Italie, il fut influencé par la peinture du Caravage et de ses disciples. Il fut un peintre très considéré, en particulier par le pape Urbain VIII, et son œuvre fut ensuite collectionnée par Mazarin et Louis XIV, et 75 de ses œuvres se trouvent au musée du Louvre. Et ce qui explique aussi que le tableau que vous avez choisi, Lucie, se trouve à Versailles. Alors le peintre Valentin de Boulogne a représenté Saint Luc à sa table de travail, écrivant son évangile. Mais Lucie, en regardant cette œuvre, nous avons plusieurs indices pour nous dire que c'est Saint Luc.
Plusieurs indices, effectivement. Alors ce tableau, il faut le dire, est quand même particulièrement sombre.
Oui.
Et la plupart des tableaux du reste représentant Saint Luc, je ne sais pas pourquoi, sont assez sombres. Mmh. Alors il y a une disposition où la disposition du tableau, Saint Luc est au milieu, il est en train d'écrire. On a l'impression, on ne sait pas s'il est sur une table ou s'il écrit sur ses genoux, dans un livre. Et sur ce meuble se trouve à sa droite un tableau.
Oui.
Un tableau qui représente de façon un peu ombreuse la Vierge et l'enfant. À gauche de Saint-Luc, donc à notre droite, on voit aussi de façon un peu ombreuse, on voit d'abord des cornes, la corne, la première corne.
La corne qui est éclairée.
Qui est éclairée, elle. L'autre est dans l'ombre. Et il s'agit d'un taureau. Alors pourquoi un taureau? Saint-Luc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'a jamais rencontré Jésus. Mais lorsqu'il, dans son évangile, il raconte la naissance de Jésus, il parle d'une étable. Et dans une étable, il y a souvent un taureau ou des vaches, mais le taureau c'est plus noble quand même. Ça fait plus royal et plus protecteur. Donc ce taureau est dans l'ombre et il semble observer Luc en train d'écrire. C'est l'animal qui représente Saint-Luc.
Voilà, c'est l'attribut de Saint-Luc, voilà, avec dans les attributs des évangélistes.
Absolument.
Voilà. Très bien. Et on peut dire d'ailleurs que les autres attributs, tant qu'on y est, Saint Jean c'est l'aigle, Saint Matthieu c'est l'homme ou l'ange, et Saint Marc c'est le lion.
C'est
voilà.
Le lion.
Et tout ça en rapport aussi avec leurs évangiles.
Oui, la façon dont ils ont écrit.
Voilà, parce qu'il y a plusieurs hypothèses pour cet attribut qu'est le taureau, pour Saint Luc. Il y a aussi le fait que Saint Luc commence son évangile par l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Saint Jean-Baptiste, et que Zacharie est prêtre. dans le temple et qu'il fait un sacrifice. Voilà. Et voilà. Que lors de ce sacrifice, on lui annonce qu'il va être père, voilà. Alors qu'il est âgé et que sa femme aussi. Voilà.
C'est le miracle.
Voilà. Donc il y a plusieurs hypothèses pour l'attribution d'un taureau à Saint-Luc. Voilà. Très bien.
Il n'y a pas de discussion, semble-t-il.
Non, mais il y a plusieurs hypothèses. Et elles sont toutes valables. Alors, donc, Saint-Luc est là, assis à sa table.
Il écrit, on ne sait pas ce qu'il écrit. Alors, il a aussi la réputation d'être un peintre.
Oui.
Et il y a un tableau que j'ai vu et dont j'ignore totalement l'auteur, où on voit effectivement Saint-Luc avec son taureau à côté, et il est en train de peindre la Vierge. Et l'enfant.
Voilà. Alors, il est connu donc pour avoir...
Il a été peint.
La première icône de la Vierge.
Absolument.
Et de l'enfant.
Absolument.
Surtout dans la tradition orientale. Mais c'est vrai que ça reste 2000 ans après.
Absolument.
Voilà.
Et puis c'est un homme multiple, parce qu'il était médecin aussi.
C'est ça.
Donc c'est un homme particulier, il n'a jamais rencontré Jésus.
Mmh.
Il a rencontré Paul.
Voilà. Il était le médecin de Paul, normalement.
Il était le médecin de Paul.
Mmh, voilà. Et donc c'est par Paul qu'il a connu Jésus. Qu'il a connu l'enseignement de Jésus.
Voilà.
Et Paul lui-même n'a pas connu Jésus.
Non.
Donc c'est par Pierre et Jacques qu'il.
Voilà,
les
donc
autres
il y a toute
une
échelle d'information.
Voilà. Voilà. Donc ces deux grands saints, si on peut dire, n'ont pas connu Jésus, n'ont pas eu ce privilège, mais ils en ont parlé avec zèle. Alors il faut dire aussi que Saint-Luc n'a pas écrit que l'Évangile.
Non. Il a écrit les Actes des Apôtres.
Oui.
Alors là aussi, il parle par personne interposée. Il parle de ce qu'on lui a raconté.
Oui, mais les Actes des Apôtres, c'est du vécu.
Mais il l'a vécu.
Voilà. Alors que l'Évangile, ce n'est pas du vécu.
Absolument.
Voilà. Et donc les Actes des Apôtres sont très intéressants pour la vie des apôtres après la résurrection de Jésus.
Absolument.
Et la montée au ciel et l'ascension. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'arrête brutalement avant la mort de saint Paul, à Rome.
Oui.
Voilà. Donc on ne sait pas...
On ne sait pas à quelle période qui est mort en premier.
Oui.
On pense que c'est quand même que c'est saint Paul.
Oui, c'est
mais,
saint Paul, mais
il s'arrête
Luc
là.
N'en parle pas.
Il n'en parle
voilà.
pas. Il a assisté, puisqu'on parlait de saint Paul, il a assisté aussi à un miracle.
Oui.
Le miracle qui s'est passé, je ne sais plus le nom de l'enfant, du jeune enfant, qui était assis.
À Troas. À Troas, lors d'un voyage de Saint-Paul.
Absolument, il était avec Saint-Paul.
Voilà.
Et l'enfant était assis au bord d'une fenêtre.
Oui.
Il a dû s'endormir.
Voilà,
il est tombé.
Pendant que Paul
parlait
dans la pièce. Voilà.
Parlait dans la pièce et parlait de Jésus.
Voilà.
Et donc, Saint-Paul, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, s'il est descendu ou si on a remonté l'enfant, mais...
Non, normalement, il est descendu avec les autres qui étaient dans la pièce. Ils ont recueilli
l'enfant.
Était-il mort ou pas ? En tout cas, il a ressuscité.
Il est ressuscité.
Voilà, il s'est réveillé.
Voilà,
donc c'est un miracle que
auquel Luc a
assisté.
Assisté.
Voilà, ce n'est pas le médecin qui l'a soigné.
Non, c'est pas le médecin, c'est Saint Paul qui l'a ressuscité.
C'est
ça s'appelle un miracle.
Finalement, on sait peu de choses sur Saint Luc.
Absolument, on ne sait pas comment il a eu l'occasion de rencontrer les chrétiens. Jésus qu'il n'a jamais vu, mais dont il a entendu parler, donc il devait être en Israël,
oui,
à Jérusalem,
en Palestine,
on va dire,
oui,
en Palestine.
Oui.
Et il a rencontré Paul. Alors,
voilà.
À quel moment l'a-t-il rencontré ? Sans doute après sa conversion.
Oui, parce qu'il était juif d'origine d'Antioche, syrien.
Syrien.
Voilà. Évidemment, la Syrie est toute proche. Hein.
C'est proche et, il avait, je ne sais pas, j'imagine qu'il y avait sans doute, comme dans beaucoup de religions, une façon différente de pratiquer la religion à Jérusalem et à Antioche, mais il avait ce fond commun.
Oui, et on dit qu'il aurait fait partie des fameux 77 disciples qui suivaient Jésus.
Voilà,
mais,
donc il l'aurait peut-être aperçu de loin,
il a pas
mais il n'a jamais
Jésus,
été en contact.
Donc voilà.
En tout cas, il n'en parle pas.
Enfin, c'est pas net, quoi.
C'est mystérieux.
C'est mystérieux. C'est ça. Donc,
il a pris contact, on ne sait pas très bien comment ils se sont rapprochés, Paul et lui, mais il a accompagné à plusieurs reprises, Paul, dans ses oui. déplacements, dans ses voyages. Du reste, il y a certains textes de Paul où il parle de Luc comme étant avec lui oui. à un moment déterminé. Et on parlait du miracle de la résurrection de cet enfant. Là, il était là aussi.
Oui, oui, oui. Il l'a suivi pendant un ou deux voyages.
Voilà.
Pas dans les quatre, mais...
Il devait avoir des moyens de correspondance parce qu'il était très bien informé sur ce voilà. qui se passait, certainement, avec, oui. Avec un peu de retard, mais...
Voilà. Et donc, c'est lui qui met l'accent sur l'enfance de Jésus dans son évangile.
Absolument.
Parce que les autres évangélistes n'en parlent pas.
N'en parlent pas.
Voilà. Donc, c'est pour ça que l'icône est importante, puisque c'est la Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux.
Absolument.
Et il a accentué donc l'origine de Saint Jean-Baptiste. Hein, avec Zacharie et Élisabeth, Saint Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, ils ont 6 mois de différence, et Saint Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus 30 ans après.
Hein,
voilà. Et c'est l'annonciateur. Jean-Baptiste est le dernier prophète.
Absolument. C'est lui qui a pris le relais, finalement, le dernier relais avant l'apparition du Christ. Il est son cousin. Il a effectivement 6 mois de plus. Il est son cousin et il a sans doute, ils ont dû se connaître dans l'enfance plus ou moins. Et c'est lui qui baptise le Christ et qui le fait entrer à la fois dans un monde nouveau et lui ouvrir la porte pour sa prédiction et son message, la délivrance de son message.
Voilà. Et donc Luc est vraiment un peu à part. Hein, parce
que
on dit aussi que son évangile est l'évangile de la miséricorde et aussi voilà de la bonté de Dieu parce que il donne des éléments que les autres ne donnent pas des paraboles que de Jésus que les autres ne donnent pas. Il y a le fils prodigue par exemple, le bon larron, voilà, il y a des choses qui montrent la bonté de Dieu, hein, la miséricorde de Dieu, et c'est intéressant par rapport aux autres.
Ben c'est intéressant parce que finalement ça nous donne plusieurs pôles de connaissances sur la vie du Christ, son message, la façon dont il l'a délivré, la façon dont il a marché, il a beaucoup marché dans ce pays, et où il a fait des rencontres différentes. Enfin, non pas différentes, mais des rencontres qui n'avaient pas toutes été enregistrées, on va dire, par les autres évangélistes.
C'est ça.
Alors, plus, il avait une culture, peut-être, il est nécessaire de dire qu'il avait une culture que peut-être les apôtres n'avait pas. Il avait étudié, il était médecin, il pratiquait le grec littéraire, il avait une culture très hellénistique et il connaissait par contre très bien la religion juive.
Voilà.
Donc il pouvait avoir un regard un peu différent de celui des apôtres qui, eux, étaient des hommes, des pêcheurs, des hommes de la terre qui n'avaient pas cette culture.
Un publicain, Matthieu.
Un publicain, c'est encore pire.
Voilà. Et donc, je reviens aussi à l'enfance. Dans les épisodes que Luc raconte, il y a aussi la belle présentation de Jésus au temple.
Oui.
Et ce magnifique cantique de Siméon, que seul Luc note.
Il est le seul à parler.
Voilà. On peut le citer, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Voilà, c'est la fin du cantique où Siméon dit « Seigneur, tu peux maintenant laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu, etc. Hein, » voilà. Et c'est magnifique.
Ce qui est magnifique, mais c'est comment a-t-il su?
Et voilà. Là est l'énigme.
Absolument.
Là est l'énigme. Mais bon, Paul avait peut-être eu des discussions avec les apôtres qui avaient eux aussi recueilli
Oui, c'est un recueil
bribes.
De recueil, finalement.
Oui, oui, ouais. Oui. Quelques bribes de l'enfance de Jésus. Bon, mais on ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne peut pas épiloguer là-dessus. Alors je reviens sur l'évangile de la miséricorde. Après, donc, Luc a parlé du fils prodigue, on l'a dit tout à l'heure, et du bon larron, mais aussi du bon samaritain, et de la rencontre de Jésus avec Zachée. Et aussi la prière de Jésus au Mont des Oliviers à Dieu le Père pour ses bourreaux. Et voilà, donc miséricorde hein, dans les grandes largeurs, si on peut dire, puisque ça vient de Jésus, la grande miséricorde de Dieu. Hein, voilà. Et donc, on dit aussi que c'est l'évangile de l'enfance. Hein. Alors, Lucie, il y a peut-être comment Luc a-t-il su les détails de cette enfance de Jésus ?
Je pense que Luc, qui avait donc une certaine éducation, puisqu'il était médecin, a sans doute été en contact avec Marie après la mort de Jésus,
oui. Hein,
lorsqu'il est arrivé.
Oui, après l'ascension de Jésus. Après l'ascension de Jésus, la mort.
Jésus n'est plus là, et c'était un juif, il avait l'air très convaincu dans sa religion, et puis ça a dû être un choc pour lui d'apprendre ce qui s'était passé à Jérusalem. Alors, a-t-il été en contact avec les apôtres? Sans aucun doute, mais avec Paul, on le sait, mais avec Marie, pourquoi pas?
Oui. Oui, puisque cette icône, il ne l'a pas inventée.
Non, il ne peut pas inventer l'histoire de la présentation au temple. Il ne peut pas inventer un certain nombre de choses qui sont relatives à l'enfance de Jésus. On peut imaginer que Luc a rencontré Marie et a rencontré des personnes qui ne sont peut-être pas les apôtres, mais qui ont connu aussi Jésus dans son enfance. Et c'est ce qui lui a sans doute permis de recueillir ses souvenirs d'une famille, ses souvenirs d'amis de la famille, de savoir comment Jésus, dont il devait avoir envie de connaître l'enfance, de connaître comment cet homme, apparemment fils d'un menuisier, d'un charpentier, avait pu être le représentant de Dieu et Dieu lui-même.
Mmh. Oui. Oui. Ce sont des hypothèses, bien sûr, qu'on émet, mais c'est probable.
C'est probable dans la mesure où il n'y avait sans doute pas de relation à l'époque de la naissance de Jésus sur cette famille qui était une famille modeste.
Voilà, et il avait déjà le sens de l'histoire puisqu'il a peint la Vierge Marie pour laisser un souvenir de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus.
Non, mais c'est un homme extérieur avec une certaine culture qui était juif, enfin qui avait une culture juive, mais qui avait un autre regard et qui est arrivé à un moment où il s'est passé quelque chose, la mort de Jésus.
Oui. Et sa résurrection.
Et sa résurrection. Voilà. Et si la façon dont ça a été ressenti par tout ce groupe de chrétiens qui étaient des pauvres gens.
Voilà.
Et qui ont eu un retentissement extraordinaire.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, il a relaté dans les Actes des Apôtres ce qu'ont fait les apôtres.
Absolument.
Ensuite.
Absolument.
Et pour lui, c'était essentiel que le message de Jésus continue.
C'était un message qui avait commencé 30 ans auparavant et qui était développé au moment où il arrivait.
Voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, pour nous avoir partagé toutes ces connaissances sur Saint-Luc, ce qu'on peut dire sur Saint-Luc. Hein, merci beaucoup. Merci à Maëlle de nous avoir assistés par la technique. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de nous écouter toujours fidèlement. Donc, si vous désirez réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur Radio Présence Cahors. En podcast, vous tapez Radio Présence Cahors, puis Culture, puis Découverte. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.